Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'interviens ici non pas en tant que chercheur, ce que je ne suis pas, mais en tant que praticien qui a besoin d'outils théoriques élaborés par la recherche, notamment en didactique et en sciences de l'éducation, pour mieux comprendre les postures des élèves en classe et pourquoi certains éprouvent des difficultés à entrer et rester dans les apprentissages scolaires. Merci. J'étais instituteur, maître formateur à Chartres de l'IUFM d'Orléans-Tours. Je dis j'étais parce qu'aujourd'hui je suis au ministère du temps libre et j'interviens surtout comme formateur au titre du groupe français d'éducation nouvelle dans des actions de formation d'adultes de différents niveaux. Mais toutes les actions sont en général sur la problématique de comment remobiliser les élèves ou les adultes sur les apprentissages, comment leur redonner sens à la scolarité et aux apprentissages. Cette formation qu'on initie avec des collègues s'adresse aussi bien à des équipes enseignantes d'élémentaires, de collèges, de lycées, qui travaillent la plupart du temps dans les établissements classés ZEP, REP, RAR, ECLER, etc. Bon, je ne sais pas quel est le prochain nom. Qui s'adresse également aux intervenants dans les dispositifs relais et les ITEP, les instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques, ainsi qu'à des animateurs sociaux et des cadres territoriaux impliqués dans les projets de réussite éducative en lien avec des établissements scolaires. Mais là, on en parlera cet après-midi, donc je ne développerai pas. Puis, je travaille aussi énormément dans la formation d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, de la sauvegarde de l'enfance, et j'interviens dans l'animation de stages d'ouvriers à très bas niveau de qualification, ainsi que un gros travail avec des associations de parents d'élèves sur comment aider notre enfant à réussir sa scolarité. Je suis en même temps, pour être un peu plus complet, co-organisateur des 5 rencontres nationales sur l'accompagnement scolaire et accompagnement à la scolarité organisées par le GFEN à Saint-Denis sur la problématique l'aide, comment faire pour qu'il s'en passe. Voilà un petit peu l'approche sur laquelle nous sommes. Alors, dans un premier temps, je voudrais interpeller un peu le titre du stage qui est l'intervention, le rapport au savoir chez les élèves en grande difficulté. Pourquoi l'interpeller? Parce que ça peut laisser à penser que la difficulté, voire la très grande difficulté, serait une qualité, vous mettez qualité entre guillemets, de certains élèves, et notamment de l'immense majorité d'entre eux étant issus des catégories sociales les plus populaires. Alors je sais bien qu'il y a des histoires personnelles, mais quand même, il ne faudrait pas gommer cette dimension. Ce sont massivement les enfants des milieux populaires qui sont en grande difficulté scolaire. Et donc, on pourrait, et je soumets ça au débat, on pourrait se demander si ce sont les élèves qui sont en difficulté ou si ce sont les enseignants qui le sont, car démunis, pour faire entrer les élèves dans les apprentissages. Vous voyez est-ce qu'on n'est pas en train de naturaliser la difficulté scolaire en disant que c'est de l'ordre du sujet? C'est une question que je pose et j'ai été très frappé par l'analyse de Stéphane Bonnery dans son livre Comprendre l'échec scolaire, qui analyse comment les inégalités scolaires ne préexistent pas à la scolarité, mais se construisent à l'intérieur des salles de classe. Donc ça sera l'objet de mon intervention sur comment ça se construit. Alors, mon problème, c'est comment comprendre le manque d'intérêt, voire le refus des activités, l'évitement de situations qui sollicitent la réflexion. On s'aperçoit que beaucoup d'élèves veulent bien faire, mais là où ça résiste, c'est pour penser. Donc, comment passer du faire au penser? Et comment comprendre les attitudes qui oscillent entre activisme stérile et passivité. Alors, c'est un phénomène qui se voit bien au moment de l'adolescence, où les comportements sont exacerbés, notamment chez les jeunes des dispositifs relais, mais ils ne font, je pense, qu'effet de loupe par rapport à la difficulté ordinaire, qui, lorsqu'on revient sur l'itinéraire des jeunes, s'est manifesté très tôt et a perduré avec des effets cumulatifs. Certains se demandent même si, quand on parle de décrochage scolaire, il faudrait savoir est-ce qu'il y a des élèves qui ont jamais accroché à l'école. Donc c'est une question qui est posée. Alors on le sait, ces jeunes ont souvent des histoires sociales et familiales difficiles, parfois douloureuses, mais ceci n'explique pas comment cela s'est transformé en difficulté scolaire. Surtout pour ceux qui ne renoncent pas à enrayer ces logiques d'échec, parce qu'au GFN, on pense qu'il n'y a pas de fatalité de l'échec, quelle que soit la condition sociale. Alors, comment en est-on arrivé à poser cette question du rapport au savoir ? Je vous propose de faire très rapidement un historique des logiques explicatives de l'échec scolaire, mais vraiment très très rapidement. La question de l'échec scolaire ne se posait pas à un moment donné, c'est une invention des années 1960, c'est-à-dire c'est au moment où on ouvre les portes du collège, puisque jusqu'ici on ne mesurait pas l'échec scolaire, donc il ne pouvait exister, et en même temps, quel que soit le niveau de sortie du système scolaire, il y avait une possibilité d'insertion sociale. Donc la question va se poser dans les années 60. Je rappelle que dans les années 50, moins de 30% d'élèves accèdent au secondaire et 5% obtiennent le baccalauréat. Alors, il ne faudrait pas non plus mythifier un passé qui aurait été auquel serait bon de revenir. Quand même, tout le monde n'avait pas le certificat d'études, non plus. Et il faudra attendre les réformes Berthoin 59 et Fouché 63 pour que ces taux d'accès passent de 30 à 62 puis 71%. C'est la naissance de l'échec scolaire, puisqu'on a longtemps cru qu'il suffisait d'ouvrir les portes, massifier, pour qu'autant il y ait une démocratisation. Or, la démocratisation, il y a eu des effets de démocratisation, mais la démocratisation n'a pas été à la hauteur des espérances, et il a donc fallu trouver des systèmes explicatifs de l'échec scolaire. Le premier, dans les années 60, sous l'impulsion de quelqu'un que vous connaissez peut-être, les plus jeunes comme moi, Debré-Ritzen, c'est la théorie des dons, qui inscrit l'échec scolaire dans un ordre biologique. Et vous comprenez bien que si c'est biologique, il est illusoire de pouvoir l'enrayer. On est complètement démuni. Ça revient à cette idéologie, malheureusement. Et à l'époque de la théorie des dons, donc à la sortie de la théorie des dons, la sociologie critique, Bourdieu, Passeron, répondra par une théorie qu'on va appeler celle de la reproduction, années 70. Bourdieu dit « De façon indéniable, le système éducatif transforme les inégalités sociales en inégalités scolaires, qui, en retour, ces inégalités scolaires, perpétuent les inégalités sociales. C'est-à-dire que il y a substitution des privilèges de la naissance à ceux du mérite qui sont certifiés par l'école. Comment Bourdieu et la sociologie critique rend compte de ce phénomène ? Par deux idées. Premièrement, la théorie de l'habitus, ce qu'il appelle habitus, pour aller vite, je ne vais pas vous donner la définition exacte. L'habitus, c'est la manière d'être au monde, de penser le monde, son rapport aux autres, de parler le monde. Ces habitus étant construits en premier lors de la socialisation primaire, c'est-à-dire au sein de l'espace familial. Et il parle en même temps, du côté de l'école, de violence symbolique. Qu'est-ce que c'est que la violence symbolique exercée par l'école ? C'est lorsqu'elle prétend, elle présuppose chacun des élèves de plein pied avec les exigences de l'école, que ce soit en matière de disposition vis-à-vis des études, de référence culturelle ou de rapport au langage. En gros, il y a violence symbolique quand l'école est aveugle aux différences qu'il y a entre les élèves. Quand elle présuppose chez tous ce qui ne fait que connivence pour certains. Donc un traitement égalitaire indifférent aux différences qui génère des inégalités. Alors là, je vous donne la formule de Bourdieu sur la violence symbolique, parce qu'il me semble qu'elle reste actuelle. Il dit « Le système éducatif, en ne donnant pas explicitement ce qu'il exige, exige uniformément de tous ceux qui l'accueillent qu'ils aient ce qu'ils ne donnent pas, c'est-à-dire le rapport au langage et à la culture que produit un mode d'inculcation particulier et seulement celui-là. » Voilà. Ces travaux de la sociologie critique vont, dans les années 75-80, être repris et poursuivis par des thèses qu'on va appeler les thèses du handicap socioculturel, qui vont poursuivre et développer l'idée que la composante culturelle pèse plus que la composante économique, d'où handicap socioculturel. Alors, dans cette approche qui va être nommée aussi approche culturaliste, deux travaux, j'y ferai pas référence, juste je les souligne, ceux de Basile Bernstein sur le langage, dans son livre Langage et classe sociale, qui essaye de typologiser, selon les parents, deux façons de structurer l'expérience qu'on a du monde dans des rapports au langage spécifiques. Et d'autres travaux, ceux de Jacques Lautré, dans son livre « Classe sociale, milieu familial et intelligence », lui qui étudie les effets cognitifs des divers styles éducatifs parentaux. Je vous incite à... Ces approches macro-sociologiques vont, dans les années 80-90, être interrogées et vont être jugés défectologiques et trop unilatérales. Certains diront sociocentrés, c'est-à-dire n'allant chercher les manques que du côté de l'enfant et de sa famille, mais jamais ou rarement du côté de l'école. Donc dans ces années-là vont succéder ce qu'on appelle des approches micro-sociologiques, qui vont s'attacher à comprendre les processus à l'œuvre au quotidien par lequel se génèrent les différences. Dans ce courant de la micro-sociologie, je vais plutôt faire référence aux travaux de l'équipe ESCOL, à l'origine Elisabeth Bautier, Bernard Charlot, Jean-Yves Rochex, qui tentent de comprendre l'échec ou la réussite scolaire comme l'expérience d'individus toujours singuliers, mais ayant néanmoins une histoire sociale. Parce que si on prend au pied de la lettre Bourdieu, reste à expliquer comment des enfants qui ont tout pour échouer à l'école réussissent parfois brillamment, et comment d'autres enfants, je pense à ceux d'enseignants, qui ont tout pour réussir à l'école, échouent et s'échouent à l'école. Et c'est ce que vont essayer de faire ces approches de la micro-sociologie, c'est-à-dire on va aller voir dans les parcours singuliers des sujets, et bien sûr inscrits dans une histoire sociale, mais on va faire place au sujet dans sa dimension, dans sa subjectivité, dans les processus qu'il met à l'œuvre, donc dans son rapport au savoir. Comment sera défini le rapport au savoir à l'époque ? Alors c'est Bernard Charlot qui en a fait une première définition dans un livre du GFN qui s'appelait « Quelle pratique pour une autre école ?» et son article était « Je serai ouvrier comme papa, alors à quoi ça me sert d'apprendre ?» Et il définit le rapport au savoir comme, là je lis, l'ensemble d'images, d'attentes et de jugements qui portent à la fois sur le sens et la fonction sociale du savoir et de l'école, sur la discipline enseignée, on y reviendra, sur la situation d'apprentissage et sur soi-même. Une dizaine d'années plus tard, l'équipe va redéfinir le rapport au savoir comme une relation de sens et donc de valeur entre un individu ou un groupe d'individus et les processus ou produits du savoir. Puis, en 97, estimant que cela pouvait masquer la pluralité des rapports, la dernière définition du rapport au savoir sera « Le rapport au savoir est l'ensemble organisé des relations qu'un sujet entretient avec tout ce qui relève de l'apprendre et du savoir. » C'est-à-dire que ce qui est développé dès les années 1992, c'est l'idée qu'il y a dans le rapport au savoir deux registres, un registre identitaire et un registre épistémique. Le registre identitaire, il correspond à la façon dont le savoir prend sens par référence à des attentes, à des repères identificatoires, à la vie qu'on veut mener, au métier qu'on veut faire, c'est-à-dire ce qui nous mobilise sur les apprentissages. Le second, le registre épistémique, il se définit en référence de la nature de l'activité que le sujet met sous le terme « apprendre » ou sous le terme « savoir ». Qu'est-ce que c'est qu'apprendre? Quel but on vise? Quelle posture adopter? Quels moyens faut-il développer pour y parvenir? Donc, cette approche m'intéresse en tant qu'enseignant, car elle m'incite à entrer dans la logique des élèves pour essayer de connaître le sens qu'ils donnent à leur présence à l'école et pour mieux comprendre les attitudes et comportements, leur posture face aux apprentissages et repérer éventuellement la nature des logiques différenciatrices. C'est en ça que ces outils théoriques m'intéressent en tant qu'enseignant. Le diaporama qui suit, que je vais vous présenter en n'étant pas trop long, ça va, je suis dans les temps, rend compte d'enquêtes que nous avons menées auprès de milliers d'élèves, de la maternelle au lycée. Dans la plupart des formations que nous faisons en direction des enseignants, nous demandons aux enseignants d'aller interroger leurs élèves en prenant des classes différenciées sur, à ton avis, est-ce que c'est important d'apprendre? Pourquoi? Qu'est-ce qui te gêne? Qu'est-ce qui t'aide dans les apprentissages? Pourquoi tu veux apprendre? Et un autre, donc, sur interroger les élèves sur les mobiles d'apprendre. Et une autre série de questions sur, à ton avis, que faut-il faire pour apprendre? Là, c'est sur les moyens à mettre en œuvre pour apprendre. Alors, donc, je vais vous montrer. Et ce qui est, pour un enseignant, ce qui est intéressant, c'est de croiser ce que nous disent les élèves avec les postures et attitudes qu'ils ont en classe et avec le niveau de maîtrise des connaissances qui sont susceptibles d'être maîtrisées. Hein, vous voyez, donc je vais en tant qu'enseignant croiser ces différentes données, ces trois données. D'où le titre du rapport à l'école, à la scolarité, du rapport au savoir, aux objets, au contenu, et du rapport à savoir, c'est-à-dire du rapport aux apprentissages. Par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, j'aurais quand même revenir sur qui sont ces élèves en difficulté. Ce sont bien sûr des personnes, mais pas n'importe lesquelles. On ne peut pas évacuer la question sociale d'un revers de main en disant qu'il ne s'agit que d'un problème individuel. Là, c'est l'Observatoire des inégalités. Je crois que ça n'a pas beaucoup changé. Mais quand même, 80% des élèves en difficulté sont massivement pas... des élèves ne sont pas neutres du point de vue socio-culturel. Voilà. Alors, je pense que c'est important de le rappeler parce que si on gomme la dimension sociale de la difficulté scolaire, on risque fort d'entrer dans une aide personnalisée, individualisée, dont aujourd'hui on connaît les limites. Donc voilà ce que nous disent les élèves quand on leur demande pourquoi apprendre. Là, c'est la question qui est posée. Donc là, je vais vous mettre les élèves de ma classe. Voilà ce que dit, c'est lisible du fond. Voilà ce que dit Morgane. Je suis au cours élémentaire. Donc, inutile de vous dire, Morgane est une élève performante qui aime beaucoup l'école. Et voilà ce que dit Michaela. Michaël attend avec impatience le moment de la récréation et le moment de sortir de classe. Voilà ce que dit Joris. Joris, caractéristique de Joris, c'est toujours la tête dans le casier, répondre avant que la question ne soit posée, avoir fini le premier, bref, s'être acquitté. Il essaye d'être un bon élève, de bien faire son métier d'élève. Sinon, il va redoubler. Et voilà ce que dit Yasmina. J'avais une classe très hétérogène. ce qui était une grande chance pour moi. Alors, forcément, Yasmina, comme Morgane, critique l'école parce qu'elle n'en donne jamais assez. Le mercredi, vous étudiez les Celtes en classe en histoire, et le mercredi, ils vont à la Bibliothèque nationale, elles vont à la Bibliothèque nationale chercher tous les livres qu'il y a, parce que en classe, on n'a pas eu le temps de répondre à toutes mes questions. Ce que ne font pas ni Michael ni Joris. Et voilà Élodie. On est sur les premières questions, donc on est sur les mobiles. Alors, l'équipe Escole préfère parler de mobile plutôt que de motivation. Hein, en général, c'est qu'est-ce qui motive les élèves, et là, c'est plutôt qu'est-ce qui les mobilise. Pourquoi ? Parce que la motivation, c'est quelque chose qui est agi de l'extérieur. Je suis motivé par quelque chose qui m'est extérieur. Alors que quand on parle de mobilisation, on est dans le ressort interne. Je me mobilise sur ou je me mobilise pour. C'est pourquoi j'utiliserai plutôt le terme mobilisation plutôt que motivation. Alors, on me dira, voilà les mobiles d'élèves, d'apprentissage des élèves. On voit que pour certains, c'est massivement pour passer. Je suis à l'école pour passer. C'est-à-dire pour en sortir le plus vite possible. Quand pour d'autres, je suis à l'école pour savoir, pour grandir, et y compris pour avoir un travail. On voit donc que les mobiles, ces élèves qui sont dans une même classe, sont avec des mobiles différents. Et ce qui est très intéressant, parce qu'après le travail que j'ai engagé avec les élèves là-dessus, montre que chacun est persuadé que les autres ont les mêmes mobiles qu'eux. C'est-à-dire que Michael pense que toute la classe est au CE pour aller au CM1, point, à la ligne, c'est tout, comme il dit. C'est tout. Vous voyez les malentendus qu'il peut y avoir, chacun étant persuadé que tous les autres pensent comme lui. Alors vous me direz, ils sont jeunes, donc on a fait, là, sur grâce à Nice, on a suivi des équipes de cycle 2 et de cycle 3 sur une ZEP de Joigny. Et là, on a fait des évaluations. C'est pareil, les collègues ont posé à leurs élèves la question, est-ce que c'est important d'apprendre, donc CE2, CM1, CM2, on s'aperçoit qu'il y a quand même 66,5% d'élèves de cycle 3 qui sont à l'école sur des motifs pas vraiment justifiés, mais qui sont à l'école pour plus tard. Bon, j'ai dû parler trop. Ça va revenir. On en a... merci. 9,5% en moyenne, hein, ça prétend pas être scientifique, mais on va voir est-ce qu'il y a des permanences qui sont pour mieux savoir, et on en a 24%, ce qui est pas mal, c'est-à-dire un quart, qui sont à l'école pour se développer intellectuellement, et comme dit un élève, je suis à l'école pour grandir, c'est-à-dire devenir comme les grands, hein, puissant mobile d'apprentissage. On me dira, bon, ils sont peut-être jeunes, donc on a fait la même chose dans des classes de collège. On s'aperçoit que dans les classes de collège, on a 69% des élèves qui sont pour avoir des notes, réussir le contrôle, passer et avoir un beau métier. Et seulement, je dirais seulement, 31% pour se culturer, j'ai bien aimé cette parole d'un élève, se culturer, se cultiver, savoir ce qu'il y a dans d'autres pays pour être intelligent. C'est-à-dire où le savoir est quelque chose qui me permet de comprendre le monde pour pouvoir agir sur lui, quand pour les autres, le savoir, c'est aller à l'école, c'est pour passer. Alors on dira, bon, c'est collège. Nous sommes allés voir dans les lycées. Et voilà ce qui se passe dans les lycées. Alors lycée, il y a, ce serait une petite interrogation que je vais vous faire, il y a deux classes, quatre classes, il y a une première S, une première SES, une première STG et une première IGC. Donc on voit quand même qu'il y a encore 52% des élèves qui sont sur « je vais à l'école pour passer, pour avoir des bonnes notes et pour accéder au bon métier ». Et 48%, mais vous voyez que c'est très différencié selon les classes, qui donne un sens au savoir par rapport à la place dans la société et par rapport à la vie sociale. Vous avez repéré la première S, par exemple ? C'est laquelle, vous direz ? Donc on va avoir, c'est pour ce pourquoi c'est intéressant de donner des classes différentes, on va voir que si les réponses sont à chaque fois existent, sont de même type, on peut typologiser les réponses, certains pour passer, pour avoir des bonnes notes, etc., d'autres pour grandir, pour s'émanciper, pour aller vite. On s'aperçoit qu'on trouve ça dans toutes les classes, mais que ce qui va faire différenciation, c'est la répartition selon les classes. Alors, vouloir apprendre, c'est nécessaire. Les mobiles. On voit que dès le cours préparatoire, il y en a certains qui nous disent ne pas vouloir apprendre. Là, il y a du travail à faire, je peux vous dire. Mais encore faut-il, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi mettre en œuvre des moyens adaptés. Et là, on a été recherché, donc dans les enquêtes, un autre type de question. Que faut-il faire, à ton avis, pour apprendre? Donc avec les mêmes élèves. C'est-à-dire, on a essayé de voir quels sont les malentendus entre ce que les enseignants attendent des élèves et ce que les élèves pensent que les enseignants attendent d'eux. Et là, c'est un malentendu majeur. Alors, on reprend la même classe. Vous vous souvenez de Morgane. Donc, Morgane passe explication, compréhension, s'entraîner, ne pas se décourager, comprendre. Michael, passer au CM1, c'est tout. On voit, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des inférences entre le mobile que j'ai et en même temps ce qu'il faut mettre en œuvre pour réussir. Lire, faire ses devoirs. Une fois que tu as fait ça, tu es tranquille. Joris, on comprend pourquoi il a vite envie de sortir de l'école. Parce que travailler. Comme disait un petit, t'es à l'école, fini la rigolade. Et il est rentré au CP, c'était après la maternelle. Renforcé, bien sûr, par les parents. Attention, maintenant t'es à la grande école. Hein. Fini la rigolade. Hein, donc, c'est aussi construit dans l'espace familial. Mais ce qui nous interroge quand même, c'est comment, y compris, comme vous avez vu, jusqu'au lycée, on a une permanence de ce rapport au savoir. Et là, on ne peut pas dire que c'est seulement de la responsabilité de la socialisation familiale. Yasmina et Elodie, vous voyez que c'est facile de faire une opération, hein. On fait des traits. Effectivement, c'est bien ce qu'elle fait en classe. Après, on commence à droite et on commence à gauche, la retenue, etc. Ça, là, on est dans le stade supérieur, tu m'en demandes de trop. Et un autre, Arnaud. Alors, on voit que pour certains, il y a comprendre, ne pas se décourager, essayer, chercher. Quand pour, je vous ai remis les mêmes, mais j'ai souligné des petits mots qui sont pas neutres. Quand certains disent « je », les autres disent « on », « il faut ». C'est intéressant parce que quand j'interroge Michael et que je lui dis, à propos d'un exercice à trous en lecture, que je lui dis « qu'est-ce qu'il faut faire à ton avis ?» Michael me dit « il faut mettre des mots dans les trous ». Et quand tu as fini, tu poses le crayon. Michael sait ce qu'il fait. Quand je demande à Arnaud, Arnaud nous dit « tu nous donnes cet exercice-là pour nous apprendre à comprendre ». Donc au début, il faut pas prendre le crayon, faut tout lire. Et quand tu lis et que tu as compris en gros le texte, tu t'aperçois qu'il y a des mots qui viennent dans ta tête. Tu écris ces mots-là en premier. Puis après, tu relis. Mais comme tu as déjà des mots en plus, tu vas comprendre mieux, tu rajoutes. Et puis, dit-il, à la fin, si tu n'as pas tous les mots, c'est pas grave. Michael, lui, il va dans l'ordre et quand le deuxième mot, il l'a pas, il s'arrête, il pose le crayon. Michael n'écoute pas la correction. Pourquoi ? Il a raison, sinon il serait fou. Parce que la correction n'a aucun sens pour lui, ainsi que pour Joris ou pour Elodie. Pourquoi ça n'a pas de sens ? Parce que demain, me dit-il, tu vas me redonner un autre exercice et même si c'est un exercice à trous, ça ne sera pas les mêmes mots. Pervers, hein, l'instit. Il nous fait refaire les choses, mais ce n'est pas les mêmes. Donc la correction ne sert à rien. Pour Morgane, pour Yasmina et pour Arnaud, le moment de la correction est le plus important. Pourquoi ? Parce qu'ils vont comprendre pourquoi ils n'ont pas compris. Ou ils vont comprendre ce qu'ils n'ont pas compris. Ils savent que demain, ça ne sera pas la même chose. Mais eux, ils savent que les exercices que je leur donne ne sont que des prétextes pour apprendre autre chose. Quand pour Michael, Joris et Elodie, l'exercice que je leur donne est le but de l'activité. C'est-à-dire que Michael, Joris et Elodie sont dans l'effectuation de tâches qui vont se succéder sans avoir de rapport les unes avec les autres. Ce sont les futurs décrocheurs si je n'y fais rien. Les autres, je n'ai pas à m'inquiéter, quel que soit leur enseignant, ils vont faire avec. Pourquoi ? Parce qu'ils savent pourquoi ils sont à l'école. L'école n'est qu'un prétexte qui va leur permettre de se construire des outils pour comprendre et agir sur le monde, c'est-à-dire pour s'émanciper. Alors, on va aller voir comment faire pour apprendre. Joignez. Vous voyez, là, on va retrouver 72% des élèves qui disent qu'ils n'ont pas d'idée ou qui disent qu'il faut se faire aider ou écouter le maître. Alors, c'est intéressant parce que tout le monde dit pour apprendre, il faut écouter. Mais certains disent qu'il faut écouter le maître. Et d'autres disent qu'il faut écouter la leçon, ce qui n'est pas la même chose. Hein ? Là, c'est écouter le maître. Ce n'est pas écouter ce que dit le maître, c'est écouter le maître. Travailler, lire, écrire, répéter, mémoriser. Alors ça, c'est la grande question, mémoriser. Seulement 28% qui sont tendus sur la compréhension. Alors, on va les voir au collège. Ça ne va pas mieux. Et là, déjà au collège, ça va donc dire que les pratiques qu'il y a eu en amont dans la scolarité sont passés comme de la pluie sur des ailes de canard en ce qui concerne sur comment il faut faire pour apprendre. C'est-à-dire que cette question-là n'a pas été véritablement travaillée préalablement. Bon, peut-être qu'au collège vont se passer des choses. Et donc voilà le lycée. Vous avez la première S ? Bien sûr, c'est la B. C'est la B. C'est-à-dire que pour apprendre, il faut déjà être attentif pendant le cours. Ce qui n'est pas évident quand certains élèves disent « pour apprendre, on gratte, et puis après on essaye de comprendre à la maison ou au centre social ». Premièrement, il faut être attentif. Deuxièmement, il faut comprendre. Troisièmement, il faut sélectionner, chercher, poursuivre sa leçon. C'est-à-dire qu'il faut faire un travail intellectuel. Mais ils ne sont que 60% en première S, mais 37,5% en STG. Voilà, ça c'était les réponses. Alors, je vais vous donner quelques exemples concrets de sixième. Je vous en ai donné de voilà en sixième. Que veut dire apprendre ? Ben, c'est pour le contrôle, quoi. Alors, une fois que le contrôle est fini, hein, vous comprenez bien que on revide la tête parce qu'après, il va y avoir un autre contrôle. On ne va jamais tout mettre dedans. Hein. Oui, parce que comme il faut tout mémoriser et sans comprendre, même classe, une autre élève, manifestement c'est une fille. Troisième. Alors là, on voit déjà qu'on est sur une symbolisation à l'extrême. Caractéristique hein, dans toutes les classes qu'on a fait dans les collèges. Alors là, dans les dispositifs relais, c'est qu'est-ce que ça veut dire apprendre ? C'est savoir par cœur, mémoriser, réciter, rarement comprendre. Troisième, même classe. Alors bien sûr qu'il y a aussi le métier, mais pas seulement le métier. C'est aussi comprendre le monde. Hein, on peut avoir plusieurs mobiles. C'est aussi avoir des bonnes notes. Mais c'est pas que avoir des bonnes notes et pas que le métier. C'est aussi autre chose. Alors, quels sont, une fois qu'on a vu ces exemples-là, sont intéressants sur qu'est-ce qui différencie les élèves, essayer de faire des idéal types. Pour certains élèves, ils sont dans le sens de l'école et de la scolarisation. Là, je vais aller très vite. Je vous ai préparé une photocopie de des éléments différenciateurs. Donc, pour certains, logique de cheminement, l'école, c'est passé, bref, c'est la quitter. Et en plus, on va donner une référence au métier qui donne surtout sens aux activités scolaires et au savoir. Par exemple, oh, l'espagnol, c'est CoF2, je fais l'impasse. C'est-à-dire, on va prendre ce qui est rentable. Puisque mon objectif, c'est de réussir l'examen. Vous comprenez ? C'est pas de devenir plus intelligent, c'est de réussir. Donc, je vais faire des choix. La correction, peut avoir ou non du sens. Pour les autres élèves, l'école n'en donne jamais assez. C'était intéressant dans ce qu'on y fait tout de suite. Même si les vecteurs, je vois pas du tout à quoi ça sert, ça va me servir, c'est intéressant parce que c'est un défi intellectuel à relever. Et moi, ça me plaît, même si je sais pas à quoi ça va servir, ni rien du tout. Et on s'aperçoit que le choix du métier pour ces élèves-là, contrairement à ce qu'on a cru pendant longtemps, on a dit pour lutter contre le décrochage, il faut construire un projet d'avenir pour les jeunes. Et ben, c'est pas évident parce que les élèves en réussite sont ceux qui, dans un premier temps, repoussent le projet d'avenir parce qu'ils savent que plus ils vont aller à l'école, plus il va y avoir de l'ouverture et du possible. Hein? Alors, ça pose un problème. Sur le sens et la conception du savoir. Bon, c'est ce que je disais, valeur d'échange des savoirs. Le savoir est conçu comme un produit fini qui ne vaut que pour la situation où il est mis en œuvre. Par exemple, dans des opérations de classification en sciences, il y a des élèves qui vont voir que c'est la même opération en grammaire quand on va classer les mots, quand d'autres élèves ne verront aucun lien entre l'activité intellectuelle qu'ils ont opérée en sciences et celle qu'ils ont opérée en grammaire. Donc je ne développe pas là parce que j'ai développé tout au long au fur et à mesure. Et le dernier élément différenciateur, c'est sur l'activité d'apprentissage. Joris me dit, toute façon, c'est pas la peine que je l'apprenne parce que je le sais pas. Donc comme je le sais pas, je peux pas le savoir. Ou ce que nous disent des collègues de collège et de lycée, ces élèves qui disent, et en particulier dans les dispositifs relais, qui disent de toute façon, je l'ai déjà appris. Mais donc, si je crois que je le sais, c'est pas la peine d'apprendre. Complément d'objet, ouais, on a vu ça dans l'élémentaire. Alors, tu vas pas nous refaire la leçon sur le complément d'objet. On l'a vu. Quand pour d'autres, c'est un engagement. Ils disent, vous vous souvenez, je. Ils disent pas il faut, on, ils disent je. Ils savent que ça va être long. Un petit de CP disait comment il faut faire pour apprendre. Il disait au début, t'as un livre avec des grandes images et pas beaucoup de mots écrits gros, puis après tu vas avoir des petites images, de plus en plus le mot. Et alors, quand t'arrives au CM2, il n'y a plus d'images. Ce gamin qui dit ça à l'entrée au CP, il sait déjà que l'apprentissage de la lecture ne se finira plus à Noël ou à la fin d'année de CP, mais va durer pendant longtemps. La différence avec un autre petit qui rentre le soir en pleurs chez lui et qui dit « mais j'ai pas appris à lire, je vais pas savoir lire ». On lui a dit « tu vas aller au CP pour apprendre à lire ». Le soir, il rentre, il sait pas lire. Ouais. Bon, c'est des exemples extrêmes. Donc, des élèves qui sont centrés sur la tâche, quand d'autres sont plutôt sur une activité intellectuelle. Le challenge, comment faire en sorte que les élèves qu'on peut appeler passifs récepteurs, ceux qui étaient à gauche, deviennent des chercheurs actifs. C'est-à-dire que toute la problématique sur laquelle on a au travail, c'est comment passer de la colonne de gauche à celle de droite. C'est ce qui pilote ma pratique. Quelles approches pédagogiques ? J'ai pas le temps de déplier le... Donc, en gros, deux approches pédagogiques sur lesquelles on en travaille. La question de registre identitaire. Comment, dans les activités des apprentissages, reconstruire de l'estime de soi ? Et deuxièmement, deuxième apport sur... Ça sera un des ateliers ce matin. Le deuxième apport, c'est travailler sur le registre épistémique. Comment redonner saveur au savoir ? Vous savez que savoir, ça vient de saper, saper, saveur. D'où le beau livre de Jean-Pierre Astolfi sur redonner saveur au savoir, qui va redonner sens à apprendre en entrant dans une approche culturelle et anthropologique des savoirs. Ça sera l'atelier de cet après-midi.